Bonjour Clémentine Autain.
Bonjour.
C'est aujourd'hui le début de l'université d'été du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Plus de 4000 patrons vont être rassemblés. Cette édition va être inaugurée par le Premier ministre Édouard Philippe. Il n'avait pas fait le déplacement l'an dernier. Ce changement et ce rapprochement vous surprennent ou c'est un retour à l'ordre des choses ?
Écoutez, vu les annonces du Premier ministre en cette rentrée, c'est assez logique qu'il aille, qu'il choisisse en tout cas le MEDEF pour être acclamé, parce qu'il y a à peu près plus que le MEDEF pour trouver les mesures annoncées sympathiques. On a un gouvernement qui suit une logique et qui l'accélère, qui est à l'œuvre depuis plusieurs décennies en France, mais pas seulement, et qui estime qu'en donnant plus d'argent à la rente et au capital, en favorisant les grandes entreprises par des logiques qui sont des logiques de défiscalisation des heures sup, comme on l'a vu, de cadeaux fiscaux donnés au patronat, on va pouvoir relancer l'économie. Mais évidemment, ça ne fonctionne absolument pas, ça ne fait qu'enrichir les plus riches. Et je voudrais noter quand même que pour cette université d'été, non seulement la présence de plusieurs membres du gouvernement montre très clairement où se situe ce gouvernement, au service du grand patronat et pas du grand nombre en France, mais la présence du ministre de l'Éducation nationale me chiffonne particulièrement. C'est une première. C'est une première et ça se fait au moment où Parcoursup est en train de donner à voir tout l'enfer pour les étudiants qu'est cette contre-réforme. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est une privatisation rampante de l'éducation qui s'annonce aujourd'hui dans notre pays.
Alors parmi les premières mesures du budget 2019 dévoilées par le Premier ministre dimanche, il y a notamment une hausse des retraites très inférieure à l'inflation, une réforme annoncée du modèle social, ça vous inquiète ?
Bah écoutez, c'est une saignée. On a l'impression qu'on va ronger le monde populaire jusqu'à l'os. Ça ne s'arrête pas. Après la hausse de la CSG pour les retraités, hein, qui avait quand même épargné les toutes petites retraites. Là, on se retrouve avec une nouvelle mesure qui fait que concrètement, ça va appauvrir l'ensemble des retraités. Si vous ajoutez à cela, effectivement, sur les allocations familiales et les APL qui ont déjà été baissées, bah, très concrètement, les capacités de pouvoir vivre dans la dignité d'une partie de la population vont être vraiment ramenées à pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a donné des milliards aux plus riches, par le biais de la tax flat, de la réforme de l'ISF, aussi du CICE. Vous parliez du MEDEF, je vous rappelle qu'il y avait un petit PINS, vous vous souvenez, le million d'emplois.
Un million d'emplois,
le PINS. Ils sont où, c'est un million d'emplois ? Nulle part. Les PINS peuvent être à la déchetterie, mais en attendant, ils ont bien empoché les milliards, qui sont les milliards qui appartiennent à l'espace public, qui sont nos milliards. Et le gouvernement qui prétend rétablir les comptes publics au nom de la dette, vous savez, eh bien, je constate qu'il trouve l'argent pour les plus riches. Et ensuite, il nous dit, bah écoutez, on a un petit problème d'équilibre et là, on va faire la poche de ceux qui auraient besoin d'être soutenus ou du service public et de la fonction publique. Et j'aimerais bien savoir où le gouvernement va trouver toutes les coupes qu'il a annoncées dans la fonction publique d'État. 10 000 postes, vous savez, c'est pas rien.
Cette dette dont vous parlez, elle représente quasiment 100% du PIB de la France. Est-ce que c'est pas logique de vouloir réduire les déficits publics ? C'est les priorités qui ne vont pas, selon vous ?
D'abord, remarquez que partout en Europe, et alors la Grèce est un exemple exemplaire, si on peut dire, quand on mène...
La Grèce, c'est 180% du PIB,
oui,
la dette.
Bah oui, précisément, après 9 plans de rigueur. C'est-à-dire que ça ne marche pas. L'idée qu'on va... Parce que quand vous faites de l'austérité, ça a un impact. Par exemple, quand les collectivités locales ne peuvent plus investir dans le bâtiment, la crise est grande dans ce secteur-là. Donc ça a un impact. Quand vous supprimez, par exemple, les contrats aidés, et le Premier ministre vient encore d'annoncer qu'il allait en supprimer, bah, par définition, il y a des emplois en moins. Donc quand vous... contracter l'activité, ça a un impact sur les comptes publics et donc sur la dette. C'est une logique qui est une logique économique qui non seulement appauvrit les populations, creuse les inégalités, mais en plus ne résout pas le problème qui est censé résoudre, c'est-à-dire le déficit public.
Alors, les rencontres avec les syndicats, le plan pauvreté qui va être annoncé, c'est de l'affichage simplement pour vous ?
Le plan pauvreté. Bah écoutez, pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que ça fasse la une, donc je ne sais pas quel est ce plan pauvreté. Mais enfin, j'entends les ministres les uns après les autres s'exprimer sur le sujet. Et pour l'instant, je crois qu'ils ne comprennent pas très bien la question. Quand on arrive à dire qu'on est libre de dormir dans la rue, Je pense qu'on a les idées pas bien claires sur le sujet dans la tête. Et en général, les politiques qui suivent vont dans ce triste sens.
Alors, si l'on vous suit bien, il y a peu de chances de voir un jour des insoumis à l'université d'été du MEDEF.
Je vous confirme. C'est pas l'ordre du jour.
Je vous le dis, et parce que vous étiez ce week-end à Marseille pour les amphis d'été 2018, les universités d'été de la France insoumise, comme environ 3000 militants du mouvement. Ces journées ont été marquées par des échanges avec des élus d'autres partis, partis socialistes, et même, un peu plus étonnant, deux députés Les Républicains. Quel est le message ?
Le message, c'est un mouvement qui, à l'occasion d'universités d'été dans lesquelles on a des débats, beaucoup de débats, hein, des ateliers dans tous les sens, des débats contradictoires aussi, hein, c'est la vie démocratique, la volonté de s'ouvrir, de pas penser simplement dans un cercle fermé, mais de s'ouvrir au débat. Je crois que c'est assez naturel. Quand on le fait pas, on explique que la France insoumise est une secte, et quand on le fait, on lui dit vous êtes trop ouvert. Je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien d'assumer le débat dans ce moment politique. Ça ne gomme évidemment pas les divergences. Je veux dire, avec les Républicains, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que nos projets sont...
C'est pour ça que c'est étonnant.
À la majeure, bon, globalement antinomique, je veux dire opposés, c'est clair. Mais sur des sujets particuliers, je crois qu'il peut y avoir possibilité de débattre, tout simplement.
Lors de la présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon avait fait pratiquement trois fois le score de Benoît Hamon. Invité Emmanuel Morel, représentant de l'aile gauche, ceux que l'on appelait les frondeurs sous le quinquennat Hollande, c'est une façon d'affaiblir encore davantage le PS ?
Moi, je crois que c'est pas nous qui affaiblissons le PS, hein, c'est le Parti Socialiste qui s'affaiblit tout seul. D'abord, il est affaibli par cinq années de gouvernement qui a mis la gauche dans le mur.
Il est quand même question qu'il ne fasse pas que l'université d'été, qu'il vous rejoigne purement et simplement.
Bah, ça, c'est lui qui décidera. Nous, on ouvre les portes et les fenêtres, c'est normal. On est en dynamique, on a une position qui s'est affirmée dans le champ politique et singulièrement à gauche. Donc voilà, que des personnalités tirent un bilan de ce qu'a donné le Parti Socialiste au pouvoir et estime que la dynamique est de notre côté et surtout les solutions pour tracer un autre chemin. Parce que vous savez, pour demain être majoritaire dans le pays sur une ligne de transformation sociale et écologique, c'est ça l'enjeu. C'est que ça l'enjeu. Il va falloir qu'on soit capable de mobiliser le peuple. Et pour mobiliser ce peuple, bien sûr qu'il va falloir agréger des courants et des Mais c'est d'abord dans le rapport à la société que ça va se jouer. Moi, je suis très contente que nous ayons une attractivité nouvelle et que aussi certaines personnalités réfléchissent sur le bilan et la catastrophe qu'a donné ce qu'on a appelé la gauche au gouvernement, à tel point que le mot gauche lui-même désoriente aujourd'hui dans le pays. Oui, les gens ne savent plus ce que recouvre ce terme. C'est dramatique. Alors qu'il a une histoire, qu'il est porteur de valeurs, mais ces valeurs ont été piétinées quand elles se sont retrouvées, paraît-il, au gouvernement, et cela a laissé des traces.
Oui, vous n'aviez pas hésité, il y a quelques mois, à faire savoir que vous regrettiez les relations tendues entre la France insoumise et le Parti communiste.
Je ne la comprends pas. Enfin, je la comprends parce que je l'ai vécu de près et je connais cette histoire-là. Mais quand vous prenez le fond politique, notamment pour affronter ces élections européennes qui sont les élections qui arrivent, il me semble que le front commun que nous avions représenté au moment du traité constitutionnel européen était particulièrement porteur. Et donc moi, je continue de plaider pour le rassemblement de toutes les forces de transformation sociale et écologiste.
Dans son discours, Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu'il fallait faire des élections européennes de 2019 un référendum anti-Macron. L'enjeu de ces élections n'est-il quand même pas un peu plus large ?
C'est une occasion. En fait, moi, je crois que les élections européennes peuvent être l'occasion d'exprimer la colère contre Emmanuel Macron. Sa politique n'est pas étrangère à l'orientation européenne et à son alliance particulière avec Angela Merkel, et nous la contestons. Donc c'est l'occasion de l'exprimer. Après, bien sûr qu'aux élections européennes, nous élisons des députés européens et que ce sera aussi l'enjeu du scrutin et même l'enjeu principal. Et là, on a beaucoup à dire et je peux vous dire qu'on a déjà mené des batailles. Je pense à la pêche électrique, ce qui n'est pas rien, où on peut aussi gagner avec nos députés, par un travail de conviction, et c'est ça qu'on veut. On veut des députés qui mènent le travail que nous menons, nous, à l'Assemblée nationale. On leur tient la dragée haute, je vous assure. On fait valoir nos idées, et non seulement on exprime un rejet et des colères, mais je crois qu'on trace aussi le chemin d'une autre possibilité politique.
Merci Clémentine Autain.